Bonjour, ici Mathieu, copywriter, éditeur. Je suis en compagnie de David Price aujourd'hui. Bonjour David.
Salut Mathieu.
Et du coup, nous sommes à Paris dans un hôtel 4 étoiles pour un séminaire de copywriting, ouais, disons le séminaire de copywriting de l'année avec des secrets qui ont été partagés par des entrepreneurs qui dépassent le million d'euros de chiffre d'affaires. David a réussi à s'esquiver. J'ai pris David par la main pour l'esquiver pour pouvoir... vous permettre, parce qu'il a une compétence très très particulière, David. On a mangé ensemble ce midi et je vais le laisser se présenter et après j'en dirai plus.
Donc je m'appelle David Bresse en effet, mon site web c'est davidbresse.fr et alors c'est pas un site qui se visite on va dire comme ça quand on n'a rien à y faire, c'est vraiment fait pour les super experts, c'est-à-dire pour moi les gens qui ont réinventé leur métier, qui sont indépendants et qui vivent de leur savoir et de leur expertise. Et moi je suis venu ici effectivement pour... voir aussi un petit peu ce qui se faisait dans le copywriting, les nouveautés, et puis voilà, les tendances, et aussi revoir pas mal de copains dans le secteur. Et moi, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est la puissance des mots, évidemment. Tu dis le pouvoir des mots, je crois. Et moi, c'est une partie de mon métier, puisque je suis un ancien publicitaire. Donc, j'avais moins de 10 mots et puis moins de 30 secondes pour changer le comportement des gens et changer le destin des marques.
Et là où c'est super intéressant... C'est, si ma mémoire est bonne, David a plus de 30 ans d'expérience.
Non,
20 ans.
Oui,
20
plus
ans. Plus de 20 ans d'expérience dans le domaine de la publicité. Et là, vous êtes sur la chaîne Le Pouvoir des Mots. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est que David maîtrise le pouvoir des images. C'est-à-dire avec une image, ça fait... c'était étonnant la démonstration qu'il nous a fait ce midi. Et du coup, est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport justement à cette utilisation des images, aux messages? Souvent avec les mots, on transmet deux messages, les premiers mots qu'on utilise et ce que la personne reçoit avec les mots. Comment, avec les images, qu'est-ce qui se passe par rapport à ça?
C'est un petit peu la même chose que le langage non-verbal. C'est-à-dire que, en fait, il y a un petit pourcentage, moins de 8%, qui passe en réalité par le verbal, par les mots, même si c'est déjà beaucoup, et puis que c'est comme ça qu'on communique. Mais on a énormément d'autres façons de communiquer, et le visuel, l'image, est évidemment un vecteur très important. Donc, dans le non-verbal, c'est-à-dire la gestuelle, dans la posture, dans les variations de la voix, tout ce qui fait, on va dire, tout ce qui est l'expression de notre corps et l'utilisation de l'espace, va donner des messages, eh bien, les images fixes, les photos par exemple, sont aussi évidemment énormément porteuses de sens et sont des vecteurs de communication qui sont souvent plus puissants et qui parlent plus fort que les mots en réalité. Et donc ce qu'on a partagé ce midi, c'était quelques exemples de sémiologie de l'image, c'est-à-dire de décodage de la façon dont une image peut nous transmettre des informations qui sont reçues de façon totalement inconsciente et qui sont par conséquent en prise directe avec les émotions. On sait que les émotions sont quand même à la base de la prise de décision, donc c'est très très important.
Et du coup, là où ça devient intéressant, c'est que lorsque sur votre site internet ou dans vos vidéos, dans tout votre contenu, dans tout, on va dire, votre design graphique, si je peux appeler ça comme ça, vous transmettez des éléments, c'est-à-dire comment... Les personnes qui nous regardent, les entrepreneurs qui nous regardent, les auteurs, les experts peuvent se dire, si je vais prendre tel logo, qu'est-ce que je vais transmettre à mon public? Parce que souvent, on s'imagine, on réfléchit un petit peu basiquement, je vais rouler en Ferrari pour transmettre le fait d'être à l'aise financièrement. Et quelles sont les questions à se poser pour aller plus loin que la première apparence?
Il y a beaucoup de dimensions dans ta question, donc je vais essayer d'en citer plusieurs sans trop les oublier. Donc si j'ai des confrères qui regardent, ne m'en veuillez pas. On parle des couleurs par exemple déjà, donc on sait que les couleurs elles-mêmes sont porteuses de sens. Par exemple, l'utilisation du orange dans l'inconscient collectif, c'est plutôt une couleur qui va par exemple avec tout ce qui est low cost, par exemple l'aviation civile, dans les compagnies aériennes, c'est EasyJet. Mais dans d'autres secteurs d'activité, pareil, l'orange est assigné en fait à cette tâche-là. Le bleu, c'est plutôt le conseil, c'est plutôt le sérieux, c'est plutôt c'est une couleur qui est apaisante. Après, on va avoir le noir qui va donner le côté très design, très rigoureux, très strict. Voilà. Donc les couleurs déjà, c'est une chose.
Mais je ne vais pas m'étaler là-dessus. Pour rebondir. Parce que tu dis le orange, et à quoi j'ai pensé quand tu as dit orange? À la société Orange avec son carré orange. Est-ce que c'était une stratégie de leur part? Parce qu'ils sont quand même positionnés sur des prix plutôt haut de gamme par rapport aux autres. Est-ce que leur logo était... choisi par rapport à ça.
C'est une bonne question, mais en fait, c'est une particularité parce que Orange, c'est venu du fait que France Télécom a racheté la marque anglaise qui s'appelait Orange. Donc, il n'y a pas eu de choix, on va dire, de la couleur. C'est quand on s'appelle Orange, c'est difficile de faire un logo bleu. Donc voilà,
on va dire que là, c'est un petit peu différent.
Plutôt, on va dire, une raison historique. Mais bon, sur les couleurs, je ne vais pas m'étaler trop parce que le plus important, c'est vraiment le sens des images elles-mêmes. Alors déjà, dans le sens des images, il y a le contenu des images elles-mêmes, mais il y a aussi le style. C'est-à-dire que, par exemple, si vous communiquez avec des illustrations ou avec de la bande dessinée, vos images ne vont pas donner le même effet. Par exemple, si vous êtes un cabinet d'avocat, ça va être très difficile d'être pris au sérieux en communiquant avec des images dessinées, par exemple. Donc ça, c'est un élément qui peut permettre déjà de comprendre qu'en fonction du traitement graphique même de vos images, vous allez transmettre des choses différentes. Mais au-delà de ça, on va parler photos, tout simplement. Il y a par exemple aussi différents styles de photos, par exemple. On peut très bien avoir des photos qui sont illustratives de la réalité, donc on va dire comme on mettrait une photo dans un blog, par exemple, pour montrer une situation. Mais vous pouvez aussi avoir des photos, par exemple, métaphoriques. Donc par exemple, si vous mettez, je dis n'importe quoi, un morceau de fromage dans un petit piège à souris, évidemment, cette image-là va plutôt être utile pour faire une métaphore par rapport à quelque chose que vous êtes en train d'expliquer. Donc ça va renforcer ce que vous êtes en train d'expliquer. Et ça n'est pas une photo d'illustration de la réalité. De même que si vous avez des photos d'image banque, il faut faire attention parfois à ne pas créer de la distance entre ce que vous dites, qui peut être sérieux, et une image qui peut faire fabriquer. Et donc qui va créer une distance en fait entre ce que vous dites et ce qui est perçu par les gens qui lisent.
Est-ce que tu as un exemple par rapport à ça?
Oui, très simplement, si par exemple sur votre site vous mettez des témoignages clients, évitez de prendre des photos de gens de banque d'images qui ressemblent à des mannequins.
D'accord.
Parce que forcément, ça casse totalement la crédibilité des témoignages.
Par exemple, souvent, entreprise qui débute se dit je vais prendre la personne sérieuse qui serre la main et tout, et là tu dis que c'est une très très mauvaise, c'est une catastrophe. Donc, point important pour vous, si vous êtes dans ce cas-là, d'éviter les...
Pour moi, c'est une catastrophe absolue à plusieurs égards. La première, ça montre que vous mettez les images juste pour mettre une image. Ça sert strictement à rien. Une image doit toujours en fait avoir un sens et doit toujours avoir un à-propos. Sinon, il vaut mieux pas la mettre. C'est aussi simple que ça. Et qu'en plus de ça, si vous ne la choisissez pas bien, alors elle peut travailler contre vous. Et ça, c'est ce dont on a parlé un petit peu ce midi, c'est qu'une image mal choisie peut donner des messages inconscients qui sont totalement à l'inverse de ce que vous écrivez ou de ce que vous dites. Donc il faut absolument faire attention à ça et passer du temps sur le choix des images. Et on appelle ça en fait un travail d'iconographie, c'est-à-dire quelle est la banque d'images que je vais sélectionner pour pouvoir illustrer mes propos, par exemple.
D'accord, parce que souvent, je pense à ça parce que j'ai un ami qui a mis ça sur son site internet. Il a mis une image d'une femme qui répond au service clientèle, une jolie blonde qui sourit et tout. Et quelles sont les questions qu'il aurait dû se poser avant de mettre son image? Est-ce que c'est une bonne idée ou pas une bonne idée? Pour parler d'un exemple concret que vous avez peut-être vu sûrement, je ne sais pas si c'est une erreur ou pas, en tout cas, je l'ai mis sur un ancien site. Et bon.
On va dire que ça peut donner la sensation que le site est un peu ancien, parce qu'à une époque, on faisait ça. C'est-à-dire qu'effectivement, on mettait une hôtesse trouvée dans les banques d'images, tout le monde avait la même en plus. Donc c'était une hôtesse qui travaillait vraiment beaucoup. Donc elle était dans tous les sites web, il y avait tout le temps les deux mains qui se serrent, il y avait tout le temps la salle de réunion avec des gens contents d'aller travailler. Bon, déjà dans la réalité, les gens sont en général un petit peu moins beaux et un petit peu moins joyeux de faire la vaisselle au repassage. Donc dans la publicité, on rigolait beaucoup avec ce genre de choses justement. Et d'ailleurs, dans les agences, on faisait des blagues par rapport à ça. C'est-à-dire qu'on reproduisait des photos d'images banques, mais en montrant la réalité. Parce que c'est vrai que les images banques, donc les banques d'images, hein, tous ces sites ou autres où on peut trouver des images, donnent une vision en fait totalement fausse de la réalité. Et voilà, donc c'est assez rigolo, ça crée des décalages, et en termes de crédibilité, c'est absolument catastrophique.
D'accord.
Donc moi, ce que j'ai tendance à dire, c'est que soit vous avez la vraie photo de votre hôtesse, soit vous mettez un picto.
Ah, une icône, quoi.
Une icône, effectivement, vectorielle.
D'accord.
Au moins, on tombe pas dans le panneau d'avoir cette photo que tout le monde a vue un million de fois et qui donne la sensation que vos images ne sont pas crédibles. Pourquoi c'est important? Parce que si vous avez des fausses images et de vraies images dans la tête des gens, vos images sont toutes fausses.
D'accord. Donc, l'image, le choix de l'image, si je comprends bien, tu m'arrêtes, c'est... L'image, c'est important pour la crédibilité que vous renvoyez à vos clients potentiels que vous renvoyez. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire, parce que pour aider le maximum d'entrepreneurs, d'auteurs, d'experts qui nous regardent par rapport au choix de leurs images, quelles sont peut-être les trois grosses erreurs à absolument éviter, à fuir comme la peste, quoi? Trois grandes erreurs que tu as, en 20 ans de carrière, tu as dû en rencontrer pas mal. Et qu'est-ce qui te viendrait en tête par rapport à trois erreurs souvent commises dans le choix des images?
Dans les trois erreurs, je vais reprendre un petit peu déjà ce qu'on s'est dit, c'est-à-dire que prendre une photo, on va dire, qui fait fausse, qui est trop parfaite. Voilà, ça, typiquement, une photo trop parfaite, ça sent tout de suite le fabriqué. Donc ça,
D'accord.
voilà, c'est une mauvaise idée.
En fait, pour développer le truc, c'est faut éviter de vouloir faire corporate ou si on vient d'être petites entreprises de la lancer, de vouloir faire international avec des images préfabriquées, quoi.
Ah, ça me fait rebondir sur une deuxième erreur possible, c'est de montrer la réalité. Parce que parfois la réalité peut vraiment aussi être repoussante en fait. Enfin, voilà, si votre entreprise n'a pas été repeinte, rangée, et voilà, si il vaut même pas mettre de photos. Donc, je dirais que c'est vraiment un choix qu'on doit faire avec sa sensibilité. Après, il n'y a pas de grandes règles. C'est pour ça que dans les agences, il y a des directeurs artistiques, en fait. Ce sont des gens qui vont donner en fait un univers graphique, qui vont donner une coloration particulière à votre communication avec le choix des images. C'est pour le coup, j'ai envie de dire, c'est vraiment un métier. C'est assez difficile d'en improviser. En revanche, si vous ne vous sentez pas confortable avec une image, ça veut dire qu'il y a probablement un problème. Donc il faut se fier un peu à son intuition.
Et ce que tu disais ce midi, qui m'a fait tilt, ce que j'ai trouvé très très pertinent, c'est de choisir, quand vous faites faire votre logo, c'est de ne pas choisir un logo qui fait beau, enfin qui fait que beau, que seulement beau, c'est de rester sur la simplicité. Est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à cette notion de simplicité et enfin du joli, enfin je te laisse parler
Quid
pour.
du joli et ouais. En fait, ce que j'expliquais, c'est que l'esthétisme est une chose importante et que c'est pour moi une condition sine qua non. C'est-à-dire que si on fait faire par exemple une identité visuelle, donc le logo de son entreprise, il est important qu'il soit beau. Mais ça n'est pas suffisant. C'est-à-dire que faire beau, c'est facile en réalité. En plus, aujourd'hui, il y a énormément de sources différentes. On peut vraiment trouver des logos très très facilement pour pas cher. Ce qui va faire la différence, c'est le sens. Donc si vous avez à la fois du sens et du beau, alors là, on commence à être bien. Mais attention, il ne faut pas tomber non plus dans le gadget. Dans la pub, on appelle ça des Mickey. C'est-à-dire le truc rigolo qui essaie d'expliquer. Par exemple, Adidas ne fait pas un logo en forme de chaussure, pour qu'on comprenne que c'est des chaussures. Or, vous voyez des boîtes d'informatique encore avec. On fait plus une souris, mais presque, quoi. Il y a encore
Oui,
des arrobas qui se promènent, des
clavier.
claviers, des. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment le signe que vous êtes une toute petite boîte qui travaille dans sa cave. Les grandes marques sont des marques, en fait, qui affichent une sérénité et un charisme qui est dû notamment à l'épure. Si vous regardez le logo de Sony, c'est quatre lettres. Il n'y a pas de dessin, il n'y a rien du tout. Si vous regardez, je citais Adidas, mais on pourrait prendre Nike, on pourrait prendre Apple. Enfin, regardez vos 10 ou 20 grosses marques préférées, vous allez remarquer que les logos sont tous très très dépouillés. Parce que, alors dépouillé, ça ne veut pas dire simpliste, hein, c'est ça qui est compliqué. Et ça ne veut pas dire qu'on ne met rien dedans. Mais ça veut dire que c'est la bonne petite chose. En fait, je crois que c'est Saint-Exupéry qui disait que la perfection, c'est quand il n'y a plus rien à enlever. Ben, un bon logo, c'est ça, c'est quand il n'y a plus rien à enlever.
Et là où je rebondis de ce que tu disais et je pense enfin, qui me semble important, est-ce que tu peux nous en dire plus sur la notion de sens? C'est-à-dire, quel est le sens que vous voulez transmettre avec votre logo? Parce qu'il y a certaines entreprises qui veulent transmettre une certaine notion de prestige, d'autres entreprises qui veulent transmettre une certaine notion de bah, je suis le mec le plus sociable du monde, quoi. Est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport au sens
Alors moi, ce n'est pas l'exercice que je préfère, le travail du logo. Enfin, c'est quelque chose que j'ai fait pendant très longtemps et que je connais bien. Mais je dirais que, pour répondre à ta question, le logo, il ne peut porter qu'un seul message. Il ne peut pas en porter 10 000. Donc ça, c'est vraiment très important de comprendre ça. Et parfois même, il ne porte pas de message, mais il va simplement porter des évocations. C'est-à-dire que parfois, ça ne va pas être compréhensible, mais ce qu'il dégage. Et donc c'est là que c'est très compliqué, parce qu'on est vraiment dans le signe. Par exemple, ça va être la largeur des lettres ou ça va être l'épaisseur du bas des lettres qui fait que ça va donner l'impression de stabilité. Ou au contraire, le côté un petit peu fin qui va donner le côté aérien, plus féminin. Donc on est plus dans des notions comme ça. Donc là, on est vraiment dans un travail. C'est pour ça qu'il faut des directeurs artistiques ou des graphistes très bons. C'est-à-dire que leur boulot, ça va être de transformer quelque part une personnalité en esthétique. Donc épaisseur de la lettre, choix des typographies, choix des couleurs. Est-ce qu'il y a un cadre, est-ce qu'il n'y a pas de cadre? Est-ce qu'on a des formes arrondies, est-ce qu'on a des formes au contraire avec des angles forts? Voilà, ça c'est vraiment des choses extrêmement pointues.
D'accord. Et merci beaucoup, David. Et une dernière question pour. C'est tellement intéressant. C'est vraiment comme le pouvoir des mots. Ça peut. C'est ce que tu nous disais ce midi. Rien qu'en changeant une image pendant toute une phase d'échange avec vos clients potentiels, ça change tout parce que c'est possible d'attirer des personnes totalement différentes selon l'illustration que vous choisissez. Est-ce que pour le choix d'une illustration, est-ce que tu peux partager, je ne sais pas comment tu fonctionnes, mais pour le choix d'une illustration, est-ce que tu as des questions que tu te poses? Je ne sais pas, par exemple, s'il y a un livre comme ça, quelles questions faut se poser pour que la personne, pour bien cibler son client, quoi.
Alors, je vais essayer de répondre au mieux à cette question, même si c'est une question un peu compliquée. Mais pour moi, il faut comprendre une chose, c'est que communiquer, ce n'est pas attirer plus de monde. Communiquer, c'est repousser les gens que vous ne voulez pas. Et les gens que vous ne voulez pas, ce sont les gens qui vont vous faire perdre du temps, ce sont les gens qui n'ont pas les moyens de payer vos services. Et quand je dis pas les moyens de payer vos services, on n'est pas en train de faire du jugement, mais imaginez la situation suivante, que quelqu'un doive vendre un rein ou un de ses enfants pour acheter votre produit, ce ne sera jamais assez bon pour lui, puisque l'effort qu'il a fait était tellement grand que quoi qu'il arrive, ce sera en dessous, le résultat sera en dessous de ce qu'il attendait. Donc dans tous les cas, vous aurez un client mécontent, et au final, ce sera du perdant-perdant. Puisqu'il va vous pourrir votre réputation, parce qu'il va vous faire des reproches, donc il va vous mettre en plus dans une énergie négative. Donc, bien communiquer, c'est surtout faire en sorte de tendre aux gens des signes perceptibles, donc on parle d'images, de couleurs, on parle de messages, qui font que les gens pour qui votre marque est faite, l'âme sœur de votre marque, de vos produits, va se reconnaître dedans et va dire « ça y est, j'ai enfin trouvé ce que je cherchais ». Donc notre boulot, c'est vraiment ça, c'est de faire en sorte, moi je dis toujours, on est des agences matrimoniales, c'est de faire en sorte de faire rencontrer la marque avec ces hommes et ces femmes qui vont être, on va dire, des partenaires pour la vie, pour longtemps. Donc, moi, je parle toujours de différentes phases aussi dans la relation. Pour moi, c'est vraiment, je fais toujours la métaphore aussi avec la relation amoureuse. Pour moi, il y a le coup de foudre, et ça, c'est le plus compliqué. Et là, on a besoin des mots. Et moi, je travaille beaucoup aussi sur les mots. J'appelle ça les mots qui font des millions. C'est les trois mots, c'est « just do it », c'est « think different » qui bouleversent, on va dire, le destin d'une marque et puis qui peuvent rester 30 ans dans l'histoire de cette marque et qui, du coup, en eux-mêmes, portent énormément de valeur de la marque. Ça, c'est le coup de foudre, c'est l'amour au premier regard. Et ensuite, évidemment, il y a un temps un petit peu plus long qui est le temps du partage des valeurs. Voilà, quels sont tes projets, quelles sont tes valeurs, qui tu es, quelle est ta personnalité, est-ce qu'on est compatible? Et c'est là qu'une marque devient plus qu'un repère de confiance, elle devient partenaire. Et ensuite, il y a l'entretien de la relation. Et donc ça, c'est le renouvellement perpétuel du fait de nourrir la relation. Et donc c'est là, à travers les produits, à travers la communication, qu'on va amener de nouvelles touches, qu'on va amener de nouvelles nuances qui vont faire vivre en fait la relation sur la durée.
D'accord. Et je rebondis sur quelque chose que tu as dit, une phrase hyper, peut-être la phrase la plus importante de cette interview, c'est que les images, les illustrations que vous utilisez sont là pour repousser les personnes à qui vous ne voulez pas vous adresser.
Exactement.
C'est l'objectif principal pour laisser la porte ouverte aux personnes, à vos clients idéaux, quoi.
Alors, je vais prendre une image parce que ça, je le fais avec mes clients pour bien leur faire comprendre l'idée. Je leur pose une question. Voilà, si tu ouvres ton portefeuille et que tu enlèves un billet de 20 euros, qu'est-ce qui vient de se passer? Alors, ils me disent tous, je viens de perdre 20 euros. Alors, en fait, il faut plutôt se dire que vous venez de laisser de la place pour un billet de 50. Donc, c'est exactement la même chose. C'est un mauvais client, c'est quelqu'un que vous devez enlever pour laisser de la place à un bon client. Parce qu'un bon client, il va faire votre publicité, ça ne vous coûtera rien du tout. Et on sait que le marketing de la recommandation, c'est le plus puissant et le moins cher du monde. Donc, première chose. Deuxième chose, il va parfois même être un ambassadeur, c'est-à-dire qu'il va aller chercher des clients pour partager l'enthousiasme qu'il a eu de travailler avec vous. Donc ça, c'est quand même très bon aussi. Et puis vous, ça va vous mettre de toute façon dans quelque chose de positif, dans un élan d'avoir envie d'aider encore plus de monde, encore mieux. Donc il faut absolument avoir les bonnes personnes en face de vous. Quand votre business ne marche pas bien, il y a plusieurs raisons. Alors soit votre produit ou votre service n'est pas bon, mais là j'ai envie de dire, on ne peut rien pour vous. Soit si c'est le cas, mais que ça ne marche pas, ça veut dire que vous n'avez tout simplement pas les bonnes personnes en face. Il y a des gens qui sont faits pour tomber amoureux durablement de votre produit. Le seul truc, c'est qu'ils ne le savent pas encore. Donc, il faut savoir où ils sont, il faut leur tapoter sur l'épaule et il faut leur présenter les choses telles qu'ils ont envie de les recevoir.
D'accord. Bah, merci beaucoup, David. C'est vraiment super, super intéressant. Je vous invite à réécouter plusieurs fois cette interview. Et surtout, c'est le plus important, c'est de prendre des notes. Parce que David il a quand même plus de 20 ans d'expérience. Mmh. Travailler avec des marques fabuleuses, donc il sait vraiment de quoi il parle sur le pouvoir des images. Merci beaucoup David. Donc pour te retrouver, s'il y a des entrepreneurs, des auteurs, des experts qui sont intéressés pour te retrouver, tu peux partager
Le plus simple, c'est via LinkedIn. Donc voilà, j'ai une page LinkedIn sur laquelle vous allez pouvoir comprendre comment je fonctionne. Sinon mon site web tout simplement, donc davidbrace.fr.
Tu peux l'épeler, je mettrai le lien, mais si tu peux l'épeler...
Donc, David, c'est très simple, pas de point, rien, pas de tiret, Breys, c'est Brey2se.fr. Ouais.
Voilà. Merci beaucoup, David. Donc,
merci à toi.
Eh bien, il y a le lien vers le site de David. Il sera sous cette vidéo. Comme d'habitude, passez à l'action, c'est en agissant. Donc, avec le pouvoir des images, vous avez plusieurs éléments que David a partagé avec vous pour corriger, améliorer la perception, la valeur que vous transmettez avec vos images. Et, la toute dernière question. Quelle est l'action qui est la plus importante en efficacité qu'une personne qui nous regarde peut mettre en place juste à la fin de cette vidéo par rapport à son image, à son illustration? Quelle est l'action imaginons un entrepreneur vient te voir et il te présente son site et tu dois lui donner un truc. Tu lui dis, voilà, tu peux faire ça tout de suite maintenant, ça va t'aider à changer quelque chose.
Alors, j'aurais pas une réponse très simple, mais ce que j'aurais envie de faire, c'est de lui dire, est-ce que tu es sûr que chaque chose que tu dis ou que tu montres apprend quelque chose à ton client? Il y a trop souvent d'informations qui ne servent à rien. Et que comme la qualité de l'attention, enfin on est aujourd'hui dans une guerre de l'attention parce qu'on manque de temps pour parler aux gens, il manque de temps pour nous écouter. Donc moins vous donnez d'informations, mieux c'est. Mais encore faut-il que ce soit les bonnes informations. Et si j'avais un seul conseil, c'est un message à la fois. C'est tout.
D'accord, donc ce qui veut dire pour développer concrètement, ce qu'il peut faire, c'est se poser la question, est-ce que cette image a une utilité
Exactement.
Pour transmettre mes valeurs?
Est-ce qu'elle m'aide ou elle travaille contre moi? Si elle travaille contre vous, il faut la virer tout de suite.
Voilà, ok. Merci beaucoup, David. C'était un plaisir. Comme d'habitude, passez à l'action. Et puis, je vous retrouve pour des nouvelles vidéos dès demain sur la chaîne Le Pouvoir des Mots. Merci beaucoup. Salut.
Salut.